Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Quatrième jour de manifestation dans les grandes villes du Nord Kivu. C'est pour décrier l'insécurité et les massacres à répétition dans la région. À Beni, par exemple, les activités socio-économiques sont paralysées depuis ce matin. Entre-temps, la ministre provinciale de l'Éducation dans le Nord Kivu demande l'intervention des autorités compétentes pour sensibiliser les manifestants et ainsi faciliter la reprise immédiate des cours. Luanda Kamala Priska est notre invitée ce midi. Couvre-feu monnayé par certains agents des services de sécurité à Matadi. Téné, les taximens et certaines personnes qui travaillent la nuit circulent aisément, moyennant 1000 francs ou plus versés au niveau des barrières. C'est ce que dénoncent les populations locales qui interpellent les autorités compétentes. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu, d'abord à Beni. Paralysie des activités socio-économiques depuis ce matin. Les jeunes des mouvements citoyens sont dans la rue depuis ce matin pour dénoncer la fin des massacres à Beni. Les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont déployés depuis 4 jours dans la ville tentent de remettre de l'ordre. Reportage signé Marc Marofimbo.
C'est une série de manifestations sporadiques qui sont signalées dans les 4 communes de la ville. Les jeunes manifestants s'organisent en petits groupes pour descendre dans les rues avec, disent-ils, comme destination finale, la base de la MONUSCO à Boïkéné. Des barricades sont érigées dans plusieurs rues de la ville, notamment dans la commune de Mounekera et Rwenzori, où les forces de l'ordre et les manifestants se font face. La police et l'unité de l'armée déployée pour lui venir en appui dégagent au fil et à mesure ces barricades. Jusque-là, le trafic est inexistant. Pas de motos ni voitures sur les voies publiques. Les commerces, notamment les alimentations, tout comme les officines pharmaceutiques, restent fermées. Les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Pour rappel, c'est depuis le lundi que les groupes de pression et certains mouvements citoyens ont décrété 10 jours sans activité à Beni, Butembo, Lubero pour décrier l'insécurité et les massacres à répétition des civils dans la région. Ces derniers appellent aussi au départ des humanitaires, des organisations internationales, y compris la MONUSCO. Notons que ces manifestations ont lieu malgré la décision du maire de les interdire pour raison de sécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Du côté de Butembo, 4e jour aujourd'hui de la paralysie des activités socio-économiques dans la ville, des organisations qui ont décrété ces journées ville morte ont organisé une messe ce jeudi pour demander à Dieu de rétablir la paix dans la région. Pour sa part, le maire de la ville de Butembo réitère son appel aux manifestants à ne pas céder à la manipulation et qu'il facilite la reprise des activités afin de ne pas asphyxier la vie de la population. Grâce à Mzati, reportage.
À ce 4e jour de manifestation, la ville de Butembo s'est encore réveillée dans la léthargie. Toutes les grandes activités socio-économiques sont restées paralysées. Les boutiques, magasins, pharmacies, autres grands commerces sont restés fermés. C'est dans les périphéries du centre-ville qu'on aperçoit certains marchands étaler leurs produits. Au grand marché, quelques vendeurs seulement sont présents sur la rue d'ambiance. La circulation quant à elle demeure timide. Ce jeudi matin, les manifestants ont organisé une messe au stade Matokeo, réunissant les chrétiens des différentes confessions religieuses. L'objectif de ces cultes, d'après les organisateurs, est d'implorer la grâce divine afin que la paix revienne dans la région de Beni, où l'insécurité n'a fait que trop durer. La plupart des participants à la dite messe étaient habillés en noir, symbole de deuil. Pendant ce temps, les militants de la Lucha font un sit-in depuis mardi au monument historique de Butembo. Le maire de la ville de Butembo, qui dit compatir avec les victimes des massacres, appelle les manifestants et particulièrement les jeunes à revenir au bon sens et à ne pas se laisser manipuler. Sylvain Kanyamanda invite également les opérateurs économiques à ouvrir leurs portes pour éviter le pire dans la survie de la population. Il sait de signaler que les forces de l'ordre sont encore perceptibles dans plusieurs coins stratégiques de la ville. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Dans la ville de Goma, cependant, l'appel lancé ce jeudi par le mouvement pro-démocratie Lucha pour exiger la paix dans l'est de la RDC et le départ de la MONUSCO a été très peu suivi. À part les écoles qui n'ont connu aucune perturbation, les banques, marchés, magasins et autres boutiques ont ouvert, mais pas d'engouement cet avant-midi. Quelques militants du mouvement Lutte pour le changement qui voulaient manifester au niveau du poste de la SNEL ont été vite dispersés par la police. Gabriel Wamenya a fait la ronde de la ville. Voici son reportage.
En dépit d'un important dispositif policier déployé dans les coins les plus chauds de la ville de Goma, toutes les activités ont ouvert. Les boutiques, les institutions de microfinance, les marchés ainsi que les magasins ont fonctionné à l'accoutumée. Dans les quartiers commerciaux les plus fréquentés de la ville, communément appelé Birere, les quelques commerçants qui hésitaient encore d'ouvrir leurs magasins dans la matinée ont finalement ouvert après avoir suivi l'annonce faite par la police les appelant à poursuivre leurs activités. Dans les quartiers Katindo vers l'entrée président, un autre point réputé chaud, c'était le même décor. Les commerçants couragés ont ouvert leurs magasins et le transport en commun n'a été perturbé. Par contre, sur l'axe allant du croisement de l'Institut de Goma vers les quartiers Majengo au nord-est de la ville, la population a placé des gros cailloux sur la chaussée, ce qui a interrompu pendant quelques heures le trafic. Signalons que le transport reste fluide sur toutes les grandes artères de la ville. Et tout le monde reste aux aguets. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le gouverneur de province, Karlin Zanzuka Sivita, appelle toute la population du Nord Kivu à l'apaisement et lui rassure que des efforts sont en cours au plus haut niveau du pays pour mettre fin à la situation des massacres à Beni. C'était en présence de la société civile et une délégation des acteurs politiques de l'opposition. Plusieurs questions ont été évoquées dans ce face-à-face avec la presse locale hier à Goma. Sifa Maguru était de la partie.
Lors de cet échange, Karlin Zanzuka Sivita a expliqué et soutenu l'idée des mutualisations des forces ainsi que le renforcement de la brigade d'intervention de la MONUSCO en vue de mettre fin au massacre de Beni et l'insécurité en général au Nord Kivu.
Il a été convenu de renforcer la FIB, la brigade d'intervention qui a plus un mandat plus robuste et ils sont en train de voir le redéploiement des forces tanzaniennes. On a aussi ajouté les Kenyans, les Népalais et l'Afrique du Sud qui est engagée.
Le gouverneur s'est catégoriquement opposé aux manifestations contre la MONUSCO et les organisations humanitaires mais aussi à la suspension des activités socio-économiques car, dit-il, c'est la population vulnérable qui en paiera les conséquences. Pour sa part, le président de la société civile du Nord Kivu, John Banyene, lui a souligné qu'il n'est pas le moment de se jeter le pierre, mais de regarder dans la même direction et dans la cohésion. John Banyene.
Il y a une situation d'insécurité généralisée. Et si on peut commencer maintenant à se jeter des pierres, c'est pour dire que l'ennemi va nous écraser tous ensemble.
Patrick Bala, l'un des cadres politiques de l'opposition, pense que la mutualisation des forces, oui, mais d'abord, il faut rendre l'armée congolaise plus efficace. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et puis, nous vous l'avions annoncé, Radio Okapi a lancé depuis le début de cette semaine une série de productions pour mieux vous faire comprendre le mandat de la MONUSCO dans son volet de protection des civils de 2001 à nos jours. Le 16 mars dernier, le tribunal militaire de Kananga a reconnu coupable le chef milicien Laurent Tsumbu Katende de meurtre, de torture, de pillage, de viol et l'a condamné à la prison à perpétuité. Ce verdict a été prononcé au terme d'audiences foraines qui se sont tenues une semaine au village de Nkongolomoshi, notamment grâce à l'appui de la MONUSCO et d'autres organisations. Ces dernières années, la mission onusienne a apporté un appui substantiel à la justice militaire dans la lutte contre l'impunité dans cette région qui a connu des terribles violences en 2016 et 2017. Joël Bofengo nous en parle dans deux reportages que nous allons diffuser aujourd'hui. Demain, voici la première partie.
La section des droits de l'homme de la MONUSCO encourage les victimes dont elle assure la protection à témoigner pour faire avancer les enquêtes menées au sujet des violations des droits humains enregistrées au Kasaï. Dans certains dossiers, comme le massacre présumé des civils à Nganza ou les viols présumés des femmes à Mulombodi, les droits de l'homme et la section d'appui à la justice ont également assisté le parquet dans ces enquêtes. Alors que la MONUSCO prépare son retrait de la région du Kasaï, certains ténors du barreau redoutent que ces départs mettent fin à l'assistance apportée à la justice. C'est notamment le cas de l'ancien bâtonnier, maître Dominique Kambala.
C'est à travers la MONUSCO, les organismes du système des Nations Unies, que la justice a été appuyée. Notamment, vous rappellerez, il y a les enquêtes conjointes qui ont été menées, qui ont permis à ce que la plupart des dossiers soient fixés. Maintenant que la MONUSCO part, le secteur de la justice risque d'être encore davantage pauvre en termes de ressources, en termes de moyens. Ça aura un coup fatal par rapport à ce combat, par rapport pas la justice.
On visite à Kananga pour faire un état des lieux du processus de retrait de la MONUSCO. La chef de la mission onusienne a annoncé jeudi dernier que certaines composantes comme les droits de l'homme vont rester pour appuyer les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les sociétés civiles des pays du bassin du Nil appellent l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à trouver une solution qui privilégie la paix dans le conflit les opposant autour du barrage de la Renaissance. Cette problématique est depuis lundi au cœur d'une réunion réunissant ces structures citoyennes à Kampala, en Ouganda. Selon Danny Singoma, directeur du CELADEP, participant à ces assises, la tripartite de Kinshasa ayant échoué, les sociétés civiles ont décidé de s'impliquer pour éviter, selon elles, une guerre qui risque d'embraser l'Afrique et le monde entier. Il ajoute qu'en tant que coordonnateur entrant du cadre de concertation de la société civile congolaise, il va faire un grand plaidoyer sur cette question auprès du président Félix-Antoine Tshisekedi en sa qualité de président de l'Union africaine. Danny Singoma, au micro d'Alain Rung-Mushinj.
Il s'est tenu à Kinshasa il y a quelques jours une conférence interministérielle des trois pays, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, à propos du barrage de la Renaissance, sous l'égide de la RDC, parce que la RDC préside l'Union africaine. Et cette réunion s'est terminée en quai des poissons. Nous savons que le conflit va arriver parce que ce grand barrage qui est conçu sur le Nil, l'Éthiopie veut le remplir à partir du mois de juillet. Et en remplissant ce barrage, l'Égypte craint qu'il sera privé de sa ressource d'eau, parce que l'Égypte ne vit que du Nil, et c'est là et l'Égypte est prête à se battre contre l'Éthiopie, le Soudan aussi est là et qui essaie de jouer entre les deux et tout ça. Et nous pensons que cette guerre risquera de menacer la paix au niveau de toute la région de l'Afrique et même du Moyen-Orient, et ça serait une catastrophe. Donc la société civile va s'impliquer et nous, comme c'est la RDC qui préside l'Union africaine, nous voulons être au devant de cette situation au niveau du CENADEP, au niveau du cadre de concertation. Nous allons essayer de mener un plaidoyer auprès du président Tshisekedi, qui est le président de l'Union africaine. Nous voulons lui apporter l'appui de la société civile.
Notez que cette réunion de Kampala se clôture le samedi 10 avril prochain. Direction Matadi. Et je vous le disais en titre, la population dénonce le monnayage du couvre-feu par certains agents des services de sécurité. Pour les Matadiens, le couvre-feu n'est plus qu'un slogan. Des témoins affirment que les taximens et ceux qui font le travail de nuit circulent aisément, moyennant quelques billets de banque versés au niveau des barrières installées par les agents de l'ordre. La population de Matadi demande aux autorités compétentes de conscientiser et de rappeler à l'ordre les policiers qui s'adonnent à de telles pratiques. Le récit de Nana Plurich Mambou.
D'après les témoins, pendant que les cas d'insécurité continuent à être déplorés dans la ville, les éléments de la police préfèrent rester dans les barrières où ils rançonnent les passants et autres conducteurs. Cet homme affirme avoir été rançonné.
Tous les jours, je regagne ma maison vers 23h ou vers minuit. Les barrières sont devenues leur business. Avant d'atteindre ma maison, j'ai franchi trois barrières et dans chacune, je débourse 500 francs. Et pour arriver chez moi en toute quiétude, certains policiers me raccompagnent et je leur remets 1000 francs. Est-ce que ces policiers sont réellement rémunérés ou pas?
Au-delà des 21h, heure du début du couvre-feu, le policier commis à la rive droite du pont Maréchal érige leur propre barrière en amont de la barrière électronique du péage. Ils y perçoivent 1000 francs auprès des chauffeurs taxi de la ligne Boma Matadi. Pour la population, ces policiers qui tracassent des paisibles citoyens ne doivent pas seulement être châtiés, mais aussi écartés de la peine. Contacté, le colonel Baudouin Kilima, commandant police ville de Matadi, indique qu'aucun policier n'a reçu l'ordre de percevoir l'argent de la population pendant les heures du couvre-feu. Baudouin Kilima invite à cet effet tous ceux qui détiennent des preuves de rançonnement des policiers à se présenter au commissariat urbain de la police ville de Matadi. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Province du Kwango, la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Kokoluko, basée à Kenge, monte au créneau pour dénoncer ce qu'elle appelle politisation des élections du bureau du Conseil provincial de la jeunesse, alors que ces élections sont apolitiques, dit-elle. Selon le secrétaire exécutif provincial de cette coalition, les élus nationaux du Kwango veulent s'impliquer dans ces élections afin de placer les leurs. Patrick Kake Sabumbulu déplore aussi la lenteur et les reports dans l'organisation des dites élections. Le secrétaire exécutif provincial de l'ONG Kokoluko, Kwango, joint par Irène Boma.
Nous, au Koli Kokwango, dénonçons avec une dernière énergie la politisation des élections du bureau du Conseil provincial de la jeunesse. La province Kwango est la dernière province à pouvoir organiser ces élections. Mais qu'est-ce que la Kokoliko remarque? Il y a une lenteur dans l'organisation. Il y a des controverses dans des réunions, dans des rencontres. Il y a des reports en report. C'est la troisième fois que les élections sont reportées. Et chaque politicien veut tirer les draps de son côté. Voilà pourquoi Kokoliko dénonce encore l'implication de politiciens du Kwango en ces élections, pourtant apolitiques. Les élus nationaux du Kwango font pression au ministre provincial de la jeunesse et sport, seulement pour que leur terroir puisse participer. Mais c'est bien beau que vos terroirs puissent participer, mais il faut y mettre des moyens. Mais quand vous ne donnez pas les moyens, vous ne pouvez pas réclamer. Pour chiter, nous lançons un appel pathétique aux politiciens congolais de dépolitiser. Les politiciens congolais dépolitisent ces élections et que les politiciens laissent la responsabilité de ces élections à la division de la jeunesse et au ministère de tutelle.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. La grève des médecins entrave le soin des patients alors que le pays est aux prises avec la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Des centaines de patients ont été laissés sans soins, les médecins affirmant qu'il n'y aura pas de retour en arrière tant que leurs besoins ne seront pas satisfaits. En effet, depuis jeudi dernier, une grève illimitée des médecins a paralysé les services médicaux dans les hôpitaux publics du Nigeria, laissant des centaines de patients en plan. Les États-Unis ont annoncé hier la reprise de leur aide aux Palestiniens, aide interrompue sous la présidence de Donald Trump et une décision à laquelle s'est immédiatement opposé l'ambassadeur d'Israël à Washington, mais qui a été saluée par l'Agence d'aide aux réfugiés palestiniens des Nations Unies. Cette aide à l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens atteindra 235 millions de dollars.
L'invité.
Elle nous vient de Butembo. La ministre provinciale en charge de l'éducation dans le Nord Kivu appelle les autorités locales à s'impliquer dans la sensibilisation des manifestants afin de faciliter la reprise immédiate des cours. Luanda Kamala Priska, qui séjourne à Butembo, s'est confiée hier à Radio Kapi après une tournée effectuée dans des écoles de la ville dont les portes sont fermées depuis lundi. Luanda Kamala Priska exprime son inquiétude dans cet entretien avec Florida Kahambu.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez effectué une tournée dans des écoles de la place en cette période où les activités scolaires sont perturbées à la suite du contexte actuel de la région. Quel était l'objet de cette tournée dans des écoles en cette période?
Oui, en fait ça a coïncidé juste avec ma mission ici à Butembo. C'est depuis le lundi que les activités scolaires ont été interrompues. Et là, nous avons appelé les parents depuis le lundi pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. La tournée d'hier consistait à vérifier si les cours ont repris. Malheureusement, nous avons trouvé seulement les enseignants dans des écoles qui étaient prêts à recevoir les enfants, mais les enfants n'étaient pas présents. Et ceux qui venaient, ils rentraient, surtout dans les périphéries de la ville de Butembo où on a signalé quelques barricades. Donc, c'était difficile pour les enfants d'aller à l'école, mais nous continuons à sensibiliser parce que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons récupérer tous les temps perdus et je profite de votre micro pour appeler cette jeunesse à être consciente par rapport à la situation que nous traversons, surtout dans les milieux scolaires, éducatifs.
La difficulté, c'est du côté des parents où ils ont peur d'envoyer les enfants à l'école. Vous pensez qu'il y a moyen de prendre des dispositions pour que les cours reprennent dans ces conditions?
Juste sensibiliser parce que je sais qu'en tant que parent, on ne peut pas envoyer son enfant si on voit un danger qui est là devant. C'est juste et sensibiliser, c'est ce que nous continuons à faire, surtout les jeunes qui laissent libre passage à ces enfants qui vont à l'école. Et si cela est fait, je crois que les parents pourront prendre la décision d'envoyer les enfants à l'école. Donc ce que nous continuons, c'est de voir avec les autorités de la ville comment continuer avec les sensibilisations, parce que déjà aujourd'hui nous sommes mercredi et nous avons perdu 3 jours. Je sais qu'il y a quelques endroits où les enfants étudient, mais nous voulons assez que ça puisse se généraliser, que dans la ville de Butembo tout le monde soit à l'école.
À votre arrivée à Butembo, vous avez fait savoir que vous êtes venu expliquer l'arrêté provincial fixant les frais de fonctionnement à payer dans des écoles. Que peut-on retenir de cet arrêté?
Avant que les gouverneurs de province ne signent un arrêté, il y a toujours des orientations qui viennent du ministère de l'EPST. Au Nord Kivu, il y a un montant qui est destiné aux enseignants nouvelles unités. Dans les milieux urbains, c'est 80 000 francs et dans les milieux ruraux, c'est 40 000 francs. Et cet argent doit servir dire au paiement des enseignants nouvelles unités. Là, on ne fait pas de différence entre un enseignant de l'école primaire, secondaire et ceux qui se trouvent dans les bureaux gestionnaires. Mais dans les milieux ruraux, je tiens à préciser que nous avons constaté que les montants étaient très élevés, que dans la note circulaire que j'avais signée, il était demandé au comité de gestion de voir comment ils peuvent revoir ces frais à la baisse. Ça doit répondre aux réalités socio-économiques du milieu, pourvu que ces enseignants nouvelles unités soient pris en charge. Donc, ce sont ces comités-là de gestion qui pourront apprécier combien ils pourront payer, pourvu que l'école fonctionne et les enseignants nouvelles unités trouvent aussi quelque chose.
Ces frais de fonctionnement sont payables par les écoles, tant publiques que privées, ou il y a une catégorie qui va payer?
Oui, les frais de fonctionnement sont payés par les écoles publiques et les écoles privées. Mais il y a une différence parce que pour les écoles privées, on ne prend pas les 80 000 francs qui sont destinés aux NU ou dans les milieux ruraux, les 46 000 francs. Il y a les gestionnaires de chaque école privée, les promoteurs qui gèrent l'école et qui connaît combien il va payer à ses enseignants. Donc, dans l'arrêté, c'est bien précisé parce que il y a d'un côté les frais qui sont payés dans les établissements publics et de l'autre côté, il y a des frais qui sont payés dans les établissements privés.
Alors, vous avez moi ajouté pour finir?
Je dirais aux élèves de tenir bon pendant cette période des coronavirus, surtout aux élèves du Grand Nord, de ne pas baisser les bras parce que même pendant cette période, ils doivent continuer à apprendre l'apprentissage à distance. Donc, ils peuvent continuer à apprendre pendant qu'il y a interruption de cours et nous sommes en train de travailler sur ça pour que aussitôt possible qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école.
Madame la ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
La ministre provinciale en charge de l'éducation dans le Nord Kivu, Luanda Kamala Priska, répondait aux questions de Florida Kahambu. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta sous la supervision d'Alain Romouchinj à la technique Mimikui Kindu. Et devant ce micro, Belinda Bosuma, je vous l'ai présenté avec un réel plaisir. Merci de nous avoir suivis.